Il est 8h40.
France Inter, le 7-9. Intervenez.
Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, avec nous jusqu'à 9h05. Vous nous avez annoncé il y a quelques minutes votre soutien à Manuel Valls. C'est Marie-Hélène qui réagit et qui vous écrit ce matin. « J'ai toujours voté à gauche et souvent par défaut, mais en 2017, écrit Marie-Hélène, si par chance le FN est éliminé au premier tour et qu'on se trouve face au choix Valls face à Fillon, je voterai blanc. Assurément, le bilan de Valls est redoutable. Il s'est trompé de couleur. »
Je crois que c'est une fausse analyse. Vous savez, moi j'ai l'impression de me retrouver presque à ma jeunesse, où lorsque j'ai adhéré au Parti Socialiste, on me disait « Mais comment toi, quelqu'un de gauche, tu vas soutenir François Mitterrand, ce type qui est terriblement à droite ?» Et l'on a vu comment, au contact avec le peuple de gauche, il a su à la fois lier son histoire et notre avenir. Eh bien moi je suis persuadé qu'il peut y avoir aussi ce même mouvement avec Manuel Valls. Il a été choisi par le président de la République, et j'ai eu l'occasion de le dire, soutenu par Payon, Montebourg-Ramon, sur cette question de l'autorité de l'État et l'ordre républicain. Et aujourd'hui, parce qu'il est maire d'une grande ville de banlieue, parce qu'il est conscient de ce qu'il est nécessaire de faire pour assurer les services publics, l'égalité devant l'éducation, préparer la France dans une Europe qui compte tenu du désordre international, je suis persuadé qu'il peut écouter les remarques qui lui ont été faites, les critiques et les espérances.
Thomas Justement, Legrand. Vous êtes aussi élu d'une banlieue populaire, et sur cette question, sur la question de la laïcité, sur la question de l'immigration, Manuel Valls et vous n'aviez pas tout à fait la même conception, notamment sur la rigueur laïque qu'il représente.
Mais c'est pas une question de rigueur laïque, c'est de permettre à ce que la laïcité soit un facteur de rassemblement.
Est-ce qu'il a les bons mots? Est-ce qu'il a la bonne attitude, selon vous, sur ces questions? Ou est-ce qu'il évolue?
Les mots,
vous n'avez pas la même, c'est
les
pour
mots
ça.
Et l'attitude, les mots et l'attitude. Moi, je regarde ce qu'il fait sur la ville d'Evry lorsqu'il en a été maire et lorsqu'il est aujourd'hui encore élu dans cette ville. On voit quelle est son attention, son attitude pour permettre à des femmes et des hommes d'origines différentes, de cultures différentes, de couleurs différentes, de religions différentes, de vivre ensemble. Et c'est ce qui me paraît être le point nodal de ce rassemblement.
C'est plutôt l'action que les mots, parce que dans les mots, il a dit par exemple que lui, à titre personnel, il aurait bien aimé pouvoir interdire le voile à l'université. C'est une position qui n'est pas du tout la vôtre.
Le soutien des maires qui avaient pris des arrêtés anti-Burkini.
C'est toute la raison qui...
Vous avez discuté de ça avec lui? Est-ce qu'il va évoluer? Il va évoluer là-dessus. Est-ce
mais
que vous allez évoluer?
C'est pas une question d'évoluer.
Bah,
c'est pas une question clair. C'est pas une question de compromis. C'est de savoir quel est l'objectif que l'on veut atteindre. Aujourd'hui, il faut que la laïcité retrouve son rôle de règle du jeu qui permet de faire vivre ensemble des femmes et des hommes, notamment dans l'espace public. Et c'est cela qu'il nous faut discuter avec lui.
Et
je crois qu'il avance beaucoup sur cette question.
Oui. Vous êtes vous aussi, vous conseilleriez à Manuel Valls de continuer sur la ligne du candidat anti-système qui s'en prend à la presse, qui explique que c'est les journalistes qui représentent le système, que lui est dans la peau du challenger, qui s'est fait tout seul et qu'il a...
Je ne suis pas du tout sur cette histoire d'anti-système. Je suis pour une campagne qui réinstalle de l'optimisme. Aujourd'hui, nos compatriotes se méfient de tout. À la fois des journalistes, des politiques, ils ont peur de l'avenir. Mmh. Et je pense qu'il est de la responsabilité d'un candidat à l'élection présidentielle de ramener de l'espérance aussi bien en jouant sur la règle du jeu que représentent les institutions, de l'espérance comme il l'a fait hier en prenant position pour les salariés d'Uber, parce que l'on voit bien ce que peut représenter cette numérisation de l'économie avec le risque de voir les vainqueurs qui prennent tout et qui laissent les miettes aux salariés et aux indépendants. C'est de cela dont il est question au cours d'une élection présidentielle. Moi, je veux que l'on réinstalle, notamment dans un pays comme le nôtre, où les Français sont trop pessimistes, un minimum d'espérance dans l'avenir.
Thomas nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Thomas, Claude Bartolone vous écoute.
Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur Bartolone.
Bonjour Thomas.
Ma question est la suivante. Comment pensez-vous que la concertation et le débat démocratique puissent sérieusement se faire avec autant d'absentéisme au sein de l'Assemblée nationale?
Alors, vous savez que, méfiez-vous des images. Bien souvent, on fait cette remarque parce que l'on voit l'hémicycle clairsemé, notamment sur des textes techniques. Mais regardez que ce soit sur les questions au gouvernement ou la présence en commission. Je rappelle que pour les parlementaires qui ne seraient pas présents régulièrement en commission, ils ont y compris la possibilité de perdre un tiers de leur indemnité parlementaire. Donc, je vous invite à regarder de près notamment un certain nombre de sites qui parlent de l'activité des parlementaires et vous verrez que cela relève beaucoup plus de l'image que de la réalité.
Beaucoup ont perdu des indemnités parlementaires dans les faits?
Oui, je n'ai plus le chiffre en tête, mais régulièrement, l'administration me fait le retour des votes solennels qui ont été effectués ou pas, ou de la présence ou non-présence en commission, et il y a des sanctions financières.
Un mot, et même un peu plus, Claude Bartolone, sur la Russie. Il y a eu, je crois, 2000 manifestants seulement ce week-end à travers la France pour soutenir les civils d'Alep. Que vous inspire ce chiffre? 2000 manifestants.
C'est vraiment terrible. Parce que l'on n'a pas l'impression de la mobilisation au beau niveau pour en finir avec ce massacre. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans une situation encore très particulière et ça renvoie à la nécessité d'avoir un choix éclairé pour l'élection présidentielle française. Regardez, on pensait que la Russie était devenue une puissance régionale. Elle essaye de camoufler de plus en plus ses déconvenues au niveau intérieur, en ayant une politique mondiale de plus en plus affirmée. On attendait les Américains gendarmes du monde et on les trouve absents. Et malheureusement, à côté de cela, on voit une Europe qui n'existe pas. Et je crois que c'est aussi de cela, en dehors du drame, en dehors de la nécessité absolue. Et j'espère qu'aujourd'hui, à l'ONU, l'amendement proposé par la France, qui aura reçu un certain nombre d'amendements, un certain nombre de modifications, pourra permettre l'évacuation des civils.
Et la France doit accueillir massivement les réfugiés d'Alep ?
Mais bien entendu, c'est de notre responsabilité.
Les Donc réfugiés... on change les quotas qu'on s'est fixés ces dernières années du nombre de réfugiés depuis que Manuel Valls est à Matignon.
Mais c'est une question centrale. Si nous avons des femmes et des hommes qui fuient la guerre et la mort, il faut les accueillir. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de faire la différence, y compris dans l'esprit de nos compatriotes, entre ce qui relève des réfugiés, notamment des réfugiés de guerre, et l'immigration économique, parce que trop souvent, il y a une confusion entre les deux. Lorsque des enfants, des femmes, des hommes, lorsque des gens prennent les risques de traverser en famille la Méditerranée avec cette Mare Nostrum qui devient un cimetière, 4000 morts cette année, il est de la responsabilité de la France d'être à la hauteur de ce que représente l'image de notre pays au niveau mondial.
Est-ce que vous souhaitez que François Fillon clarifie sa position et son degré de proximité avec Vladimir Poutine ?
Je crois qu'il a commencé à le faire. Pour un certain nombre de ses amis, ils ont donné un certain nombre de précisions hier, notamment pour les conférences qu'il aurait données en Russie.
Oui, mais ça, c'est sur l'aspect conférence, en disant qu'il n'y avait pas eu de conférence rémunérée
sur ce point-là,
en
sur
Russie
ce point-là.
Par François
Fillon.
Je crois
qu'il est important, et vous allez le voir au cours de cette campagne des élections présidentielles, ce lien ou cette analyse ou cette proximité avec M. Poutine et les prises de position qu'il prend, c'est indispensable. Entendons-nous. Moi, je considère que nous devons avoir des contacts avec la Russie, parce que la Russie, c'est le continent européen. Mais nous devons être capables de nous opposer à M. Poutine lorsqu'il mène une politique extérieure qui est aussi catastrophique que celle qu'il a menée pour des raisons internes en Syrie.
Thomas Legrand.
Manuel Valls ne reprend pas votre proposition, celle que vous aviez formulée dans le travail que vous aviez fait sur la réforme des institutions avec Michel Vinoc, d'un mandat présidentiel de 7 ans non renouvelable. Est-ce que vous êtes déçu?
Entendons-nous. Je crois qu'il a donné un signal avec cet abandon du 49-3. Mais pour un certain nombre de positions qui sont dans ce bon rapport que je vous conseille de lire, Vinoc-Bartolone, il ne les a pas repris pour le moment. Mais entendons-nous, moi je considère que c'est un premier signal. C'est-à-dire qu'enfin on se rend compte que, compte tenu de la distance prise par nos compatriotes avec nos institutions, avec cette impression que la démocratie fonctionne mal, quand vous voyez que 30% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à soutenir un régime autoritaire, non démocratique, eh bien il y a une responsabilité collective de repenser nos institutions, de repenser la règle du jeu, comme le dit le philosophe Michael Fuessel qui a participé à cette commission Vinoc. Quand un certain nombre de nos compatriotes ne se reconnaissent plus dans le jeu, il faut leur donner la possibilité de réécrire une partie de la règle du jeu. C'est ce dont il est question avec cette question de repenser nos institutions.
Est-ce qu'il faut, Claude Bartolone, remettre sur la table la question du droit de vote des étrangers ?
Voyez, on ne va pas régler la question des institutions qu'au cours de l'élection présidentielle. Si Manuel Valls me pose la question, je lui dirai, voilà, sur nos institutions, comme sur le droit de vote des étrangers, moi je serais assez pour qu'après l'élection présidentielle, vers la fin du mois de septembre, on ait un référendum à choix multiples pour éviter sa politisation, comme ça a été le cas en Italie, qui permette aux Français de donner leur point de vue sur nos institutions. Et là, on pourra...
Et sur cette question du droit de vote.
Sur le droit de vote, oui.
Et notamment sur cette question-là.
Et vous savez pourquoi Manuel Valls ne vous pose pas la question? Vous dites, si Manuel Valls me pose la question, je lui répondrai ça. Il se trouve que sur cette question-là, il ne va pas vous la poser, cette question.
Je lui proposerai qu'il y ait d'organiser, après les élections présidentielles, un référendum sur la règle du jeu. Nos institutions, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça au-dessus de nos têtes. C'est la manière de vivre ensemble. Et sur la question de la durée du mandat présidentiel, sur la question de la proportionnelle au sein de l'Assemblée nationale, sur la question du droit de vote, je pense que ça mérite un débat, pas simplement au cours de l'élection présidentielle. Je suis pas naïf. Je sais très bien que nos compatriotes vont plus nous poser des questions sur le chômage, sur la protection sociale, sur l'éducation nationale, sur les conséquences du numérique, sur l'Europe, sur la mondialisation. Mais cette question, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, je crois que c'est le bon moment, au cours d'une élection présidentielle, d'amorcer le débat sur un sujet comme celui-là.
Claude Bartolone, il y a eu plusieurs manifestations ce week-end au Pays Basque après l'arrestation de 5 personnes dans ce qui a été présenté par le gouvernement français comme un coup de filet anti-ETA. Il se trouve que ces 5 personnes étaient, pour certains d'entre eux, militants, société civile. Il y a des journalistes également qui ont été arrêtés. Eux affirment qu'ils voulaient détruire un stock d'armes d'ETA qui ne sont pas des terroristes. Ils vont être présentés ce matin au Parlement. Antiterroriste. Il y a certains de vos collègues socialistes qui demandent leur libération. Quelle est votre position?
Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. D'abord, vous vous rendez bien compte que...
Faites pas confiance au communiqué du ministère de l'Intérieur.
Je veux savoir ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur, mon ami Bruno Le Roux en particulier, a dit une chose qui est sensée. On ne va pas les uns et les autres décider que l'on devient destructeur d'armes. Ça se fait sous le contrôle de l'État. Ça se fait en relation avec le gouvernement. Chacun ne va pas se transformer en justicier, sous une forme ou sous une autre. Donc là, les précisions ont déjà été apportées par le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, et j'attends que l'on en sache un petit peu plus sur cette histoire. Mais franchement, quelle que soit la qualité des responsables qui militent pour les droits de l'homme, vous ne pouvez pas vous permettre d'un seul coup de vous transformer en justicier, quelle que soit la dimension.
Mmh. Un mot encore. Et
oui, il n'y a pas Gérard Filoche dans la primaire. Il n'a pas été retenu. Est-ce que la primaire ne va pas se priver d'une grande gueule un peu qui peut secouer un petit peu le Parti Socialiste?
À un moment donné, pour les uns et pour les autres, il faut une règle du jeu. Il n'y a pas que les institutions qui sont une règle du jeu. Il y a une autre autorité qui a été installée par notre premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, et la direction du Parti Socialiste. Après, c'était à Gérard Filoche, quelle que soit sa grande gueule, de trouver les parrainages pour pouvoir être candidat. Il ne les a pas eus, il n'est pas candidat, ça me paraît normal.
Vous, votre parrainage est allé à Manuel Valls?
Bien sûr.
Oui. La pollution est terminée, Claude Bartolone, en Ile-de-France, mais elle continue pour le 20e jour consécutif aujourd'hui dans la région Rhône-Alpes. Alors, on en parle moins parce que c'est loin de Paris.
La pollution n'est pas terminée. Ça baisse un petit peu.
Voilà, ça baisse, on est revenu en tout cas en dessous du seuil d'alerte. Est-ce qu'il faut fixer dans le prochain quinquennat ou la décennie qui s'ouvre une date d'interdiction du diesel en France?
Alors, non seulement sur les véhicules propres, mais l'on voit bien ce que représente maintenant cet enjeu de la double transition écologique et énergétique. L'on ne peut pas aller d'un pic de pollution à un autre. L'on voit bien que nous sommes rentrés là aussi dans un nouveau monde. Et cette question du lien entre l'économique, le social et l'environnemental va devenir extrêmement important pour le candidat que je soutiens, Manuel Valls, et pour le débat que nous aurons au cours de l'élection présidentielle.
Mais pas aujourd'hui sur le diesel, oui.
Pourquoi je dis ça? Notamment sur le diesel. Pourquoi je dis ça?
Il faut fixer une date d'interdiction du diesel en France?
Écoutez, vous voyez bien que ça ne peut pas se régler sous cette forme-là. Mais montrer la priorité...
Anne Hidalgo, à Paris, prend des mesures, oui, interdit les plus vieilles voitures.
Mais elle a raison.
C'est fait, il y a des dates.
Elle a raison.
À Paris, pourquoi Paris n'est pas la France?
Je le dis, elle a d'autant plus raison, quelles que soient les protestations que l'on entend.
Sur les voies sur berge, en tant qu'élu francilien, vous êtes d'accord avec elle?
Bien entendu. S'il n'y a pas des mesures physiques pour réduire la circulation, si le temps de circulation en automobile est inférieur au temps de circulation dans les transports, vous aurez toujours la tentation de prendre la voiture. Et dans quelques années, ce sera un grand problème, y compris, vous verrez, les procès que l'on aura en termes de santé publique vis-à-vis des élus qui n'auront pas pris les bonnes décisions sur ce sujet. Et pourquoi j'insiste sur cette question de la double transition écologique et énergétique ? C'est que rien n'est jamais gagné. Regardez les nominations qu'annonce Trump aux États-Unis. Regardez les propos qu'il tient pour nier la responsabilité de l'homme dans le cadre du réchauffement climatique. Regardez les positions qu'il prend en faveur des groupes pétroliers et du gaz de schiste. C'est une bataille qui sera là aussi au cœur de la prochaine élection présidentielle française. Et je l'espère, au cœur des préoccupations pour renforcer l'Europe, notamment après le Brexit.
Claude Bartolone, vous restez avec nous dans une minute, le billet de Sophia Aram.